voudrais vous raconter l'histoire de la parole, ou plutôt l'histoire d'un homme. C'est un homme qui a été mal élevé. On lui a répété qu'il fallait tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler, qu'avant de prendre la parole, il fallait avoir quelque chose à dire, et surtout qu'il fallait être prêt. Dans son métier, il doit prendre la parole en public souvent, alors pendant des années, il a souffert. Souffert justement de ne pas prendre la parole, de ne faire que communiquer des idées qu'il avait au préalable notées et rédigées. Pendant des années, il n'a eu ni plaisir, ni, à vrai dire, succès. On ne l'écoutait pas. Il disait ce qu'il avait à dire, communiquait ce qu'il avait à communiquer. Il aurait pu tout aussi bien envoyer un mail, et puis il s'en retournait, ses dossiers sous le bras. Jusqu'au jour où, le jour où tout a changé. C'est l'histoire d'un homme qui, un beau jour, a pris la parole. Il a pris la parole comme on prend son envol. Il a pris la parole comme on prend son élan. Il est arrivé sans notes, avec juste en tête quelques idées phares et de la musique dans le cœur. Il a dit les choses comme elles venaient, en écoutant les mots, en observant les effets de ces mots dans les yeux des autres, en laissant les mots appeler d'autres mots, les sonorités appeler d'autres idées. Il a découvert ce que parler veut dire. Que la parole pouvait être autre chose que la mise en mots d'une pensée préexistante, qu'elle pouvait être le lieu d'une invention, le lieu même de l'éclosion du sens, qu'elle pouvait être vivante, et lui, par la même occasion. Oh, comme nous sommes vivants quand nous osons parler, être parlé, parlant, être ces paralêtres dont parlait Lacan, traverser de mots, des mois, oh, comme nous sommes vivants quand nous osons improviser, nous laisser traverser par les mots, et c'est alors que nous sommes écoutés, parce que quelque chose se passe, que les autres n'aiment rien tant que cela, quand quelque chose se passe, quand quelque chose passe. Le sens dans le sensible des mots, l'aventure du sens au cœur même du sensible des mots, la joie de parler, de penser en même temps, ce qui est tellement plus que communiquer. Cet homme qui a appris à parler, qui ne tourne plus sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler, mais se jette maintenant dans la parole comme on se jette à l'eau, n'a jamais lu Barbara Cassin. Il ne sait pas qu'elle distingue dans toute son œuvre parler et communiquer. Il ne le sait pas, mais il est d'accord avec elle. Parler, c'est autre chose. Parler, c'est tellement plus. Pour en parler ce matin, de la parole, mais aussi de notre capacité à nous comprendre, j'ai la grande joie, justement, de recevoir dans la caverne de France Inter, Barbara Cassin, philologue et philosophe, poète, académicienne, médaille d'or au CNRS, qui a accepté de nous rejoindre sous le soleil de Platon, et nous lui en sommes très reconnaissants parce que nous savons qu'elle préfère de loin, au soleil de Platon, les lumières de Gorgias ou de Protagoras.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Barbara Cassin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous allez bien ?
Je vais bien. Je suis très heureuse d'être sous le soleil de Platon.
Bon, alors, je suis rassuré, quand même. Oui, écoutez, je suis très heureux de vous recevoir. J'aimerais aborder avec vous plein de questions, surtout après avoir lu votre magnifique autobiographie philosophique, « Le bonheur, sa dent douce à la mort », un titre emprunté à Rimbaud, on en parlera. Et je voudrais aborder avec vous 2 grandes questions qui sont liées. La première, c'est « Pouvons-nous nous comprendre, au fond ?» Il me semble que tout votre travail pose cette question. Et la deuxième, qui peut-être est articulée à la première, « Que peuvent les mots ?» dans cette optique de la compréhension mutuelle. Si je vous posais, pour commencer, vous qui avez écrit tant de livres sur ce sujet, tant de livres sur le pouvoir des mots, qui êtes aussi médaille d'or, on dit comme ça, du CNRS,
oui,
et reçu depuis 2 ans à l'Académie, si je vous disais très simplement, pouvons-nous nous comprendre, vous répondriez quoi ?
Sûrement. Bien sûr, on peut. Et puis on peut aussi ne pas se comprendre. Et c'est même pour ça qu'on peut se comprendre.
Alors ça, vous allez directement dans ce qui m'intéresse le plus, enfin pas le plus, mais dans ce que j'ai adoré en vous lisant, c'est que vous êtes, on peut quand même dire une intellectuelle, vous êtes professeur, vous êtes helléniste, mais vous aimez ne pas comprendre. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Et d'ailleurs, il me semble que c'est un des secrets aussi des belles histoires d'amour, vous en parlez parfois comme ça. Si on comprenait tout d'un être, on ne pourrait pas l'aimer. Et du coup, il y a une dialectique intéressante. D'un côté, vous voulez comprendre, évidemment, le philosophe veut comprendre, le philologue veut comprendre. Et de l'autre côté, au fond, vous n'aimez rien tant que ne pas comprendre et que le mystère, au fond, résiste. Comment on tient les 2 maillons de cette chaîne ?
On commence par ne pas comprendre. Déjà, si on accepte ça, c'est formidable. Et moi, ça m'arrive tout le temps. Ça m'arrive avec le grec, bien sûr, que je crois comprendre au bout d'un certain temps et que je crois comprendre à nouveau. Mais chaque fois que je relis un texte, j'ai toujours, à nouveau, l'impression de ne pas comprendre, jusqu'à ce que je me mette à comprendre.
Finalement, c'est aussi parce qu'on ne comprend pas qu'on a le désir de comprendre, qu'on a le désir de savoir. Ça, pour le coup, c'est très platonicien, finalement.
Oui, oui, bien sûr. Mais Platon a tout vu en un sens. Simplement, il s'agit de savoir ce qu'il a accentué et ce qu'il a, honni.
Ouais.
Et moi, je ne déteste pas les mêmes choses que Platon.
Dans votre livre, Le bonheur, sa dent douce à la mort, il me semble que justement, vous vous laissez aller aux mots, à l'écriture, vous laissez porter par une sorte de flow, comme disent les rappeurs, de souffle. Il y a quelque chose presque de relâché dans cette écriture, mais au sens noble, au sens où, comme une parole d'analysant sur le divan, quelque chose comme ça, de tricoté. Pour moi, c'est un peu ce que je voulais dire dans ma chronique de lancement. Il me semble que parler, c'est se laisser traverser par quelque chose qui n'est pas tout à fait maîtrisé.
Absolument. Moi, j'aime les mots pour eux.
Ouais.
J'aime les mots pour les mots. J'aime parler pour parler.
Et non pas les mots pour ce qu'ils signifient.
Voilà, ou pas seulement pour ce qu'ils signifient, pas pour ce qu'ils veulent dire et pas parce ce qu'on veut leur faire dire. Voilà. Et si vous voulez, quand je dis parler pour parler, comme au fond l'art pour l'art, là, c'est je mets le doigt sur le reproche clé que non pas Platon, mais Aristote fait aux sophistes. Aristote, au livre Gamma de la métaphysique, dit que les sophistes sont ceux qui l'égayent ou l'égoucinent, parlent, logoucarine, pour le plaisir de parler. Et ça, ils supportent pas. Ouais. Il faut parler pour signifier, et pour signifier quelque chose, et pour signifier une seule chose, et la même, à soi-même et pour autrui. Et si on fait ça, eh bien, ça veut dire qu'on obéit au principe de non-contradiction, au principe de l'univocité du sens, on est dedans.
Voilà. Et vous, dans le plaisir de parler que pour lequel vous militez au fond, dans vos livres, dans ce dernier aussi, il y a cette idée peut-être que, en fait, ça va paradoxalement dire plus de choses.
Oui.
Quand on laisse les mots ne pas vouloir dire une seule chose.
Oui.
Quand on les ouvre à l'équivocité ou même à la polysémie, j'entends bien. Mais du coup, j'ai été très surpris d'apprendre que vous n'aviez pas fait d'analyse, parce que souvent les gens qui ont ce rapport à la parole sont passés par le divan. Vous avez connu Lacan, on va en parler, cette rencontre est très amusante, elle finit d'ailleurs bizarrement.
Oui.
On va en parler tout de suite, mais comment expliquer que quelqu'un qui a votre parcours, votre chemin, vous avez croisé René Char, Heidegger lui-même, puis Lacan, puis d'autres, vous êtes tout ce que vous écrivez indique l'horizon à la fois d'un langage qui a un pouvoir sur les choses, sur le monde.
Oui.
Ce qui est le but de la psychanalyse, et aussi de mots qui s'ouvrent à la richesse du sens, à la polysémie. Et donc, j'aurais mis ma main à couper que vous étiez passé par 10, 15, 20 ans de divan.
Moi aussi, j'aurais mis ma main à couper, mais justement, j'ai les deux mains, là.
Et pourquoi pas? Vous avez eu peur?
Peut-être, sûrement. Enfin, il faut bien croire qu'il y a des choses qui m'en ont éloigné. Mais disons que j'ai eu l'impression de ne pas en avoir besoin. Je veux dire que quand on fait une analyse, c'est aussi parce qu'on en a besoin. Et moi, j'ai fait quelque chose qui ressemble à de l'analyse, mais qui n'en est pas. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec des adolescents psychotiques. Ça a été très, très important pour moi. Ça a été très important de travailler avec des gens qui étaient en analyse, non pas les adolescents, mais tous les professeurs, tous les pédagogues, etc. Tout ça, c'était une armée d'analysants et d'analysés.
C'est vrai. D'ailleurs, j'ai trouvé dans votre livre, donc Le bonheur, sa dent douce à la mort, une étrange définition du psychotique que j'avais jamais lu ailleurs. D'ailleurs, par rapport à laquelle vous prenez un peu de distance, c'est que le psychotique, c'est celui qui est fou mais qui ignore sa folie. Il y a ça dans le livre, ça m'a paru bizarre. D'où vient cette idée?
Je ne sais pas, je ne savais même pas que j'avais dit ça. Pour moi, les psychotiques que j'ai rencontrés, ça ne me paraît pas stupide.
Oui,
j'ai travaillé avec des jeunes, des tout jeunes, des adolescents vraiment. Oui. Et j'ai travaillé avec eux justement sur leur manière de ne pas parler, sur leur manière d'être mutique, de ne pas avoir une vraie langue maternelle à eux.
Ouais.
Et c'est là où le grec m'a beaucoup servi. Parce que, alors, je peux peut-être le raconter quand
Bien
même.
Sûr.
Un moment où j'ai compris beaucoup de choses, donc j'étais pédagogue, je ne sais pas ce que ça veut dire, j'essayais de leur apprendre des choses sur le français, sur à la fois le français comme langue, et puis les textes, et puis bon. Et j'étais tellement triste de voir qu'ils n'avaient pas de langue maternelle. Je me suis dit, maternelle, voilà, ça c'est peut-être grave. Peut-être que c'est pour ça, c'est parce que la langue est maternelle qu'ils n'en veulent pas. Parce que Dieu sait qu'ils ont eu des déboires avec leur mère, avec leurs parents. Enfin bon, il faut dire qu'ils venaient très très souvent de familles d'accueil. Bon. Et donc, je me suis dit, comment je pourrais leur faire percevoir qu'ils ont quand même une langue maternelle. Et là, je me suis mise à écrire du grec au tableau. Et le grec, c'est évidemment un autre alphabet. C'était quelque chose d'étrange. Ça aurait pu être de l'hébreu, ça aurait pu être du chinois, de l'arabe. Enfin, le grec, c'était ce que j'avais à ma disposition. Et donc, j'ai écrit du grec au tableau. Et là, je les ai vus véritablement pleins d'une surprise, comment dire, qui les incitait à comprendre quelque chose. Et à ce moment-là, j'ai essayé de leur expliquer pourquoi le grec, ça m'intéressait. Et je me suis mise à lire avec eux le Cratyle en grec. Et en français. Évidemment, je traduisais tout de suite. Mais ce qui m'intéressait dans le Cratyle, de Platon, sous le soleil de Platon, c'est que Socrate peut proposer des étymologies complètement contradictoires. Il peut dire que l'aletheia, c'est une course rapide, ou bien au contraire, qu'il va falloir s'arrêter sur quelque chose, etc. Et en somme, il possède la langue et il joue avec. Cratyle joue avec aussi. Donc voilà, c'est des joueurs sur la langue. Et au fond, là, ils parlent pour le plaisir de parler. Exactement, c'est des très grands sophistes, si vous voulez.
Bien sûr, bon. Mais ça leur a fait du bien à ces ados?
Eh bien, justement, ça leur a fait quelque chose, en tout cas. Alors, du bien, j'espère, mais il y a un moment où il y en a un qui a levé le doigt et qui m'a dit « Ouais, mais j'ai compris !» Je dis « Qu'est-ce que t'as compris ?»« Ah, j'ai compris l'étymologie de « concierge !»
Et alors, c'est quoi?
Bah, c'est concierge, voilà.
Mais c'est incroyable, parce que c'est un laboratoire pour observer les effets, au fond, du langage, ce qui est une partie de votre travail. Vous avez aussi écrit un livre sur le langage performatif, « Quand dire, c'est faire », emprunté au titre d'Austin. Et c'est vrai que tout votre travail est marqué par cette fascination pour le pouvoir du langage, mais un pouvoir du langage, on y revient, et c'est ça qui est très important à dire aux auditeurs. Finalement, d'autant plus important qu'on se livre à ce langage sans vouloir précisément atteindre ce pouvoir-là. Qu'on a un rapport un peu gratuit, désintéressé, comme quand on parle pour le plaisir de parler.
Voilà.
D'où le fait que vous vous appelez dans votre autobiographie philosophique Barbara Blabla. Expliquez-nous un peu ça.
Barbara, les Grecs, pour les Grecs, les barbares, ça veut dire ceux qu'on ne comprend pas. Ceux qui font blablabla, littéralement, c'est une onomatopée d'incompréhension. Comme berbère, comme babel, comme blablaté. Donc finalement, je me suis aperçue un peu plus tard, rétroactivement, comme toutes les vérités vraies, que moi qui avais trois prénoms, Laure, Sylvie, alors Nerval, Laure, bon, on voit bien... Et le troisième, c'était Barbara, parce que l'accoucheur de ma mère était américain et que tout d'un coup, il lui a dit « Oh, vous devriez l'appeler Barbara ». Donc, je m'appelle Laure Sylvie Barbara. Et j'ai choisi Barbara. Je ne sais pas pourquoi, c'est venu comme ça. C'est comme ça que tout le monde m'a appelée. Et donc, je me suis demandé pourquoi c'était comme ça. Et là, j'ai compris que j'étais un barbare, je blablatais.
Et c'est aussi quelqu'un qui est à l'extérieur, qui n'est pas au centre, qui n'est pas dans l'Empire.
C'est un autre.
Qui est passé au-delà de la frontière.
C'est de l'autre. Voilà. C'est quelqu'un qui n'a pas vraiment le logos, on n'est pas tout à fait sûr.
Et puis d'ailleurs, même aussi pour vous, puisque c'est un prénom d'origine américaine, c'est de toute façon une forme d'altérité.
Oui.
Vous êtes allé vers l'altérité un peu naturellement.
Oui, ça s'est trouvé comme ça. Mais si vous voulez, le très choquant... Pour les Grecs, alors que je suis helléniste et que j'aime le grec, les Grecs, etc., que ça me passionne. Bon, le très choquant, c'est que, au fond, c'est pas tellement étonnant qu'ils soient à l'origine de la philosophie ou de la philosophie que nous pratiquons, parce qu'ils ont la conscience d'être universels. C'est-à-dire que quand ils disent logos, alors logos, c'est un mot qui a. Je sais pas, 200 traductions, hein. Ça veut dire langue. Les latins le traduisent très bien en disant ratio, raison, et oratio et discours.
Oui.
Raison et discours. Mais au départ, ça veut dire A sur B égale C sur D. C'est-à-dire une mise en relation, un rapport. Donc, tout ça, quand on l'étend à la langue, ça veut dire tout le système de la langue. Ça veut dire aussi bien le système de la démonstration que le système de la phrase, que l'agencement des mots. Bon.
En tout cas, on n'est pas dans une parole qui s'échappe, qui se laisse dire pour le plaisir.
Et non seulement ça, mais la définition de l'homme, c'est un animal doué de logos. Très bien. Simplement, le logos, c'est quand même le grec. C'est-à-dire que c'est quand même...
Et le barbare, c'est celui qui ne parle pas cette langue et qui n'a pas cette raison-là.
Voilà. Et donc, est-ce qu'on est sûr que c'est un homme? Ben, pas vraiment, hein.
Ouais, c'est ça. Et donc, vous êtes un petit peu identifié à ce barbare.
Enfin, en à la frontière.
Aussi, en essayant aussi de le faire parler, vous vous êtes intéressé à ce qu'il y avait derrière cette frontière. Et justement, à ce sujet, j'ai prévu de vous faire écouter une chanson que j'adore. Et je crois que vous allez comprendre pourquoi. I am a passenger. C'était évidemment le grand Liguane, le grand Iggy Pop, The Passenger.
France Inter, sous le soleil de Platon.
Alors Barbara Cassin, vous avez quoi compris le message, The Passenger, Iggy Pop? Il me semble, j'ai toujours eu un choc en écoutant cette chanson, il me semble qu'elle dit la vérité de l'existence, au fond. Nous ne faisons que passer, nous passons, nous sommes des... Alors, nous sommes quoi, au fond, d'après vous? Des passeurs, des passants, des passagers clandestins? Vous diriez quoi, au fond?
Tout ça? Clandestin, on ne l'est pas tellement. Enfin, on est peut-être clandestin par rapport à l'ensemble du monde.
Ouais.
On n'est pas très important, bon. Et donc, on peut très bien être en soute. Mais on est des passants et des passeurs. Oui, ça, c'est notre boulot. Et c'est notre boulot d'homme.
Oui, pas simplement de professeur.
Ah non, non. C'est notre boulot de tout un chacun, j'allais dire. Cette chanson, elle me bouleverse d'autant plus que je viens de voir, il y a très peu de temps, on vient de m'envoyer une vidéo qui m'a fait pleurer tellement je l'ai trouvée belle. Je travaille beaucoup avec les classes UPE2A, c'est-à-dire les classes d'accueil, où là, il y a vraiment des passants, c'est-à-dire c'est des gens qui arrivent, des enfants qui arrivent et qui viennent d'ailleurs et qui passent là. Et chacun d'eux dit dans un certain format, dit quelque chose comme je regarde par la fenêtre, je regarde le ciel par la fenêtre, j'ai toujours regardé le ciel par la fenêtre, j'attends la pluie et je me souviens. Et à ce moment-là, chacun dit une phrase dans sa langue et puis il explique ce dont il se souvient. Et il y a quelque chose comme ça, si vous voulez, qui redouble le fait d'être un humain. C'est-à-dire, c'est vrai, un humain, c'est quelqu'un qui passe dans le monde.
Enfin, c'est ce que je pense, c'est ce que vous dites, mais tout le monde ne pense pas ça. Certains pensent qu'un humain, c'est quelqu'un qui reste chez lui, dans les frontières de son identité.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, c'est quelqu'un qui naît et qui meurt.
Oui, bien sûr, qui ne fait
donc,
que passer.
En ce sens, il ne fait que passer.
Et qui pour passer au pays d'Hadès, devra donner une pièce, voilà.
Mettons.
Une obole.
Voilà. Et donc, quand en plus il passe d'un pays à l'autre, et quand en plus c'est un passant...
Oui, ça redouble cette vérité existentielle.
Ça redouble cette vérité. Et c'est ça que je veux dire. Et du coup, je trouve que parce qu'il parle aussi, Iggy Pop parle aussi de la fenêtre, des étoiles qu'il voit par la fenêtre, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai tellement pensé vivement à cette vidéo absolument magnifique, et au fait de passer alors aussi d'une langue à l'autre, c'est-à-dire d'un pays à l'autre, d'un monde à un autre, d'une culture à l'autre.
Et puis aussi d'une relation à l'autre peut-être, d'une amitié à l'autre, d'un amour à l'autre. Est-ce qu'il y aurait plus de vérité dans le passage que dans les lieux entre lesquels on passe ?
On ne peut pas passer sans lieu entre lesquels.
Ouais.
Je veux dire, c'est entre et avec, toujours. On travaille entre et avec. Donc voilà, il faut bien des points qui sont entraînés dans un flux.
D'ailleurs, vous venez de sortir récemment un livre, Les Maisons de la Sagesse, encore plus récemment que Le Bonheur s'adonne douce à la mort. Parlez-nous un peu de ce projet et notamment de cette très belle phrase « Ce sont des maisons qui n'ont ni porte ni fenêtre ». Est-ce que c'est pour que ça passe mieux, justement ?
Déjà, c'est parce qu'on n'est pas capable de faire autrement.
Oui. Racontez-nous un petit peu le projet.
Le projet des Maisons de la Sagesse, traduire, c'est une... Nous avons créé une association de 1901 qui est quand même... Enfin, comment dire, lié à ce choc dont parle Hannah Arendt à propos de notre époque, qui est que on oublie qu'on a créé une sorte de gens qui sont enfermés dans des camps de concentration par leurs ennemis et dans des camps de rétention par leurs amis. Bon, et c'est notre époque en fin de compte.
Vous allez à Lesbos. Une création de migrants.
Oui. De migrants, vous allez à Lesbos, bon, il y a bien un camp où on retient les gens, puisqu'on ne sait pas quoi en faire. Bon. Et pour moi, c'est quand même l'un des grands scandales de l'Europe, c'est même le scandale qu'on aurait à travailler. Enfin, ce n'est pas possible d'accepter que, voilà, quand par hasard on n'est pas noyé, eh ben, on est mis derrière des barbelés, bon, ou quasi barbelés. Donc, c'est autour de ça qu'on travaille dans cette association. Et on travaille d'une part sur l'accueil, et d'autre part sur ce qu'on peut appeler l'insertion. Et puis enfin, sur la recherche. Bon, alors, l'accueil. Quand quelqu'un arrive... qui n'est pas noyé, donc, et qui prend pied sur une terre, par exemple en France, on lui demande de remplir des questionnaires, et des questionnaires, et plein de questionnaires d'ailleurs différents. Bon, mais en gros, quand même, revient la question de l'identité. Nom, prénom, date de naissance, ensuite, civilité, etc., tout ce que vous voudrez. Et là, nous nous sommes aperçus, je me suis aperçue depuis longtemps, depuis que j'ai fait cette exposition sur la traduction au MUCEM, qui s'appelait Après Babel traduire.
Oui, que j'avais vu à l'époque.
Ouais, et que j'ai travaillé donc avec beaucoup d'associations à ce moment-là. Je me suis aperçue qu'il n'y avait rien de plus difficile que de remplir ce genre de questionnaire quand on vient vraiment d'ailleurs.
Bien sûr.
C'est-à-dire quand on n'a pas la même culture administrative, quand on n'a pas des siècles de culture administrative qui sont encloses dans ces questionnaires.
Je crois d'ailleurs que parfois on n'a pas nom et prénom, tout simplement.
Parfois, alors donc justement, quand on n'a pas le même type de culture, donc nom, prénom, et demander à une femme soninké quel est son nom et quel est son prénom, et en tout cas, est-ce qu'elle a le même nom que son mari, ben ça dépend. Par exemple, s'il est chasseur ou s'il est guerrier, elle pourra pas le porter, donc elle s'appellera autrement. Et puis, date de naissance, mais est-ce qu'on la connaît? On est né à l'année des sauterelles, ça peut arriver. Mmh. Ou bien, on peut aussi ne pas la connaître. Et je me souviens, par exemple, que lors d'une réunion à Aubervilliers qui réunissait tous les gens avec qui accueillaient. D'ailleurs, c'était une réunion magnifique. On avait aussi bien les policiers que les gens de l'état civil, que les gens de la santé, etc., que les traducteurs, d'ailleurs, que les interprètes. Eh bien, tout d'un coup, il y a une femme qui tenait l'état civil, qui s'est frappée le front en disant « Oh, mais on comprend pourquoi ils sont tous nés le 31 décembre ou le 1er janvier. » Et c'est vrai que là, il y a quelque chose à comprendre.
Bien sûr.
Et il faut... Donc, si vous voulez, nous, on fait des glossaires de l'administration française pour essayer d'expliquer d'abord ce que les mots veulent dire.
De traduire, encore une fois.
De traduire, oui. Et puis d'expliquer pourquoi c'est pas simple. Et on l'explique aux deux parties, ceux qui accueillent et ceux qui sont accueillis, aux hôtes, dans les deux sens, dans le
vous
sens réciproque.
Vous essayez de créer un peu de monde commun,
un peu de
là
monde
où c'est
commun,
difficile.
Des piqûres de culture.
Et c'est ça la maison de la sagesse.
Voilà, ça c'est un des dispositifs des maisons de la sagesse. L'autre dispositif, alors là il est plus baroque encore, c'est... Nous essayons de créer des banques culturelles. Alors, c'est un dispositif sud-nord, c'est-à-dire qu'il en existe déjà en Afrique. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire ici? Et qu'est-ce que c'est? Une banque culturelle, c'est un triptyque, au fond, qui modifie l'idée de banque, modifie l'idée de musée, et modifie l'idée de rapport nord-sud.
Ouais. Bon.
Alors, une banque culturelle, c'est un lieu où on pourra montrer, comme dans un musée, mais vous allez voir que c'est pas du tout un musée du coup, un objet avec son récit. La biographie de l'objet qui est en même temps la biographie de la personne. Et cet objet, il peut avoir une valeur matérielle, on peut montrer, comme au clou par exemple, on peut mettre un bijou qui vaut tant, parce que c'est tant d'or, mais on peut aussi mettre une recette de cuisine, on peut aussi mettre une chanson. Et donc, c'est une valeur matérielle et immatérielle, et la valeur immatérielle, par excellence, c'est celle du récit. Donc, un objet avec son récit.
Donc, où est-ce qu'on pourra voir tout ça?
Par exemple, vous allez le voir à Aubervilliers, j'espère, en novembre, on va créer une première ébauche d'exposition comme ça, avec quelques objets. Alors, c'est objet, récit, projet, microcrédit. Donc,
ah oui,
on travaille avec...
Pour financer ensuite
des opérations, pour financer le projet,
des projets.
Pour financer le projet.
Et puis, une manière pour eux de s'installer, finalement.
De s'insérer. Voilà. Donc, c'est le deuxième temps. Voilà. C'est le deuxième temps. Le premier temps, c'est l'identité, les glossaires de l'administration. Le deuxième temps, c'est ces banques culturelles qui sont des nano-crédits. Vous voyez, ce sont des gens qui ne sont pas éligibles à des micro-crédits. Et donc, on a là l'aide du crédit municipal. On a l'aide de probablement, j'espère, d'un certain nombre de firmes. Et on a l'aide des musées. Et l'aide du campus Condorcet qui est complètement implanté, voilà.
Donc, je comprends mieux en tout cas pourquoi la chanson d'Iggy Pop vous a touché.
Oui, voilà.
D'ailleurs, ça me fait penser à autre chose. On est encore dans la question du passage finalement, qui est une si belle question sous votre plume. Vous avez travaillé avec René Char et Heidegger il y a longtemps, à la fin des années 60, dans une sorte de séminaire.
70 plutôt.
Ouais,
parce que c'était après... Ah oui, à la fin des années 60, vous avez raison.
Et il y a une scène marrante dans votre autobiographie où vous quittez la maison de René Char et puis il vous rattrape dehors et voilà des sous pour le péage. Oui. On a l'impression que tout dans votre histoire indique que vous allez passer, partir, revenir, voyager et finalement trouver votre, presque votre identité dans le fait de sortir de votre identité au fond. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il voulait dire René Char?
Disons que on était très très proches l'un de l'autre. Et bon, on avait quand même 40 ans de différence d'âge. Et donc, je partais comme une gentille petite fille que j'étais. Je rentrais chez mes parents, donc je prenais ma voiture.
Je crois que vous aviez 22 ans à l'époque.
Oui, c'est ça. Mmh. Mais 22 ans en 68,
c'est
69.
Ça. Il faut quand même imaginer la chose. En fait, c'est une sorte de séminaire. Il s'appelle le séminaire de Thor. Mmh. Vous êtes une quinzaine. Il y a beaucoup d'intellectuels. Et notamment, il y a deux figures tutélaires. Un poète, René Char, et un philosophe, Heidegger. Mmh. Philosophe immense, mais qui s'avère aussi être un nazi. Et l'être encore. Dans ces années-là, et tout le monde le sait, et René Char, pourtant résistant, le sait. Enfin, ça se sait, même
ça
si
ça se sait moins. Hein.
En tout cas, il le savait. Lui.
On le sait, mais on ne sait pas jusqu'où.
Je veux
dire, ça pouvait être un nazi ordinaire.
Bien sûr.
Or, c'est plus que ça.
On a su depuis, grâce au livre noir, que c'était bien plus que ça.
Oui.
Mais néanmoins, j'aime beaucoup la façon dont vous en parlez. Quand vous réussissez à dire, écoutez, voilà, c'est possible d'être un immense philosophe et un sale nazi en même temps. Mmh. On retrouve là l'idée de l'ambiguïté qui vous intéresse tant. Mais quand même, vous avez vécu une scène...
Mais vous savez ça avec Platon.
Oui, bah c'est, mais Platon, avec le vrai Platon, pas celui qu'on caricature souvent.
Avec le vrai.
Mais je voudrais revenir sur un élément biographique un peu traumatisant, j'imagine, pour vous à l'époque, c'est que donc, à un moment au petit déjeuner, vous quittez cette table où il y avait donc beaucoup de monde, dont René Char et Heidegger, et puis quelqu'un vient vous voir et en fait vous crache au visage.
Oui, c'est pas tout à fait comme ça.
Alors racontez-nous.
Presque. Bon, d'abord, à l'hôtel du Chasselas où nous étions logés, il y avait Heidegger, mais pas Char, puisque Char était chez lui. Et moi, j'allais à la poste restante parce que j'allais chercher les lettres qu'on m'adressait. J'avais pas envie que tout le monde les voie, donc voilà, j'allais chercher des lettres. Et c'est en faisant la queue à la poste restante que je dis mon nom pour obtenir les lettres. Je dis Barbara Cassin. Et à ce moment-là, la personne qui était derrière moi me dit, vous vous appelez Cassin et vous prenez votre petit déjeuner à la table de ce nazi, et il m'a craché au visage. Et j'ai vu après qu'il avait un numéro tatoué. Bon, donc voilà, il était juif, Cassin est un nom juif.
Il était rescapé des camps.
Rescapé des camps, ouais. Cassin est un nom juif, René Cassin,
bien sûr.
Voilà. Et donc, voilà ce qui s'est passé. Et moi, je n'avais pas conscience d'être juive dans ce sens-là. C'est-à-dire que mes parents, pas pratiquants du tout, mais très conscients d'être juifs. J'étais juive comme Anna Arendt. C'est-à-dire, quand on vous dit sale juive, alors là, on est juif. Mais quand on vous le dit pas,
mais quand on vous crache dessus?
Quand on vous crache dessus, c'est un peu comme si on vous disait sale juif, tu n'es pas juif comme il faut.
Ouais.
Bon. Et donc, c'est une autre manière d'être sale juive.
Bien sûr.
Bon.
C'est une autre manière de se trouver presque essentialisé, en tout cas réduit à une identité qu'on n'était pas censé adopter nécessairement.
Voilà. Et donc, j'ai réfléchi.
Mais après, vous avez continué à travailler avec Heidegger et René Char?
C'était pas du travail.
Enfin, c'était des séminaires.
J'étais très choquée de ce qui s'était passé, mais je ne suis pas sûre d'avoir tout à fait compris qui m'arrivait.
Mais aujourd'hui, avec le recul, puisque votre démarche, on en a parlé au début de l'entretien, c'est comprendre, mais accepter aussi de ne pas comprendre, il me semble qu'on est dans le vif du sujet. Parce que on a envie de comprendre. Heidegger est un philosophe immense, on peut le dire quand même, malgré tout.
Oui.
C'est en fait aussi un salaud. C'est par ailleurs un philosophe quand même de l'enracinement et non pas du voyage et du passage comme vous. Donc ça a dû vous intéresser aussi, au fond, d'avoir cet interlocuteur, parce que vous aviez un autre rapport à la Grèce, par exemple. Pour lui, la Grèce, c'est le lieu...
De l'enracinement,
voilà,
du sol.
Pour vous, c'est presque le contraire. C'est la Grèce d'Homère et des voyages.
Oui, mais c'est je me suis faite cette Grèce-là, après.
Oui.
C'est-à-dire que la Grèce des pré-socratiques, si vous voulez, c'est quand même la Grèce de Parménide. C'est la Grèce dont Heidegger dit, vous lisez ces quelques lignes et vous pouvez jeter toutes vos bibliothèques. Oui. Et puis, la langue grecque est enracinée dans une race.
Bien sûr.
Et dans un sol. Et
dans un lieu, tout à fait. Oui.
Et c'est pour ça qu'elle est géniale, comme la langue allemande. Donc, à partir du moment où j'ai compris qu'il y avait ça derrière... La manière dont Heidegger comprenais les présocratiques. Ouais. La première question que je me suis posée, c'est peut-on être autrement présocratique ?
Peut-on les comprendre autrement ? Voilà. Et c'est là que vous avez écrit le livre sur Parménide, je crois.
Absolument, mais j'ai écrit six Parménides, c'était ma thèse, et ensuite je me suis intéressée à la sophistique.
Ouais. Écoutez, on va faire une petite pause musicale pour essayer de réfléchir à tout ça, et puis après on reviendra quand même sur cette énigme Heidegger. C'était Delgrès, un titre qui s'appelle Aléa.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin, sur France Inter.
Alors Barbara Cassin, nous vous retrouvons après cette petite pause musicale. J'aimerais revenir sur ce qu'on était en train d'évoquer avant, non pas pour insister sur le cas Heidegger, c'est pas le sujet de l'émission, mais c'est par rapport au thème. Est-ce qu'on peut se comprendre ? Est-ce qu'on peut comprendre ? Finalement, est-ce qu'on peut comprendre que quelqu'un comme ça ait été nazi, non seulement pendant la Seconde Guerre mondiale, mais même après, en étant un amateur de philosophie, de poésie? Qu'est-ce qui peut se passer? Comment vous interprétez ça avec tant de recul et en l'ayant côtoyé de si près? C'est une question très simple, pas théorique, que je vous pose. Finalement, est-ce que vous comprenez quelque chose de cette histoire?
Je comprends quelque chose théoriquement,
ouais.
Justement. C'est-à-dire que la notion d'origine, qui est liée à sa perception de la Grèce présocratique, sa notion de langue qui parle, je prends esprit. La langue, elle langue. Bon, ce sont des notions contre lesquelles j'ai eu à me battre tout le temps à partir de là, à partir du moment où je les ai vues, la notion de génie,
oui.
D'une langue et de génie enraciné dans une race et dans un peuple. Bon, quand j'ai fait le dictionnaire des intraduisibles, qui est vraiment un travail considérable de 15 ans avec 150 personnes, etc., sur la différence des langues, justement, sur des symptômes de différence des langues, c'est pour essayer de prouver que quelque chose de ce nationalisme ontologique, c'est comme ça que je l'ai appelé, était intolérable. Et qu'il n'était pas question de croire à une hiérarchie des langues. Et qu'il n'était pas question de croire à une hiérarchie des peuples et des génies. Bon. Et donc, c'est contre ça que je me suis mise à travailler. Et pourquoi est-ce que je le comprends? Ben, je le comprends parce que justement, ça m'a fait tellement horreur, mais je peux expliquer comment c'est philosophiquement enraciné. C'est enraciné pour moi dans de la philosophie.
Bien sûr.
Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, je comprends qu'il ne se soit jamais dénazifié en profondeur. Parce que il n'a jamais changé d'idée, de cette idée-là.
Ouais.
Et pour moi, alors...
Mais ce qui est paradoxal, c'est que un grand philosophe devrait pouvoir changer d'avis, justement.
Mais...
Devrait pouvoir ne pas s'accrocher à son système.
Mais
certains grands philosophes, comme Kant, avaient un système incroyable. Et puis, à la fin de leur vie, avec la troisième critique, finalement, il change et il remet en question des choses importantes. Et lui n'en a pas été capable.
Mais il ne l'a pas voulu, puisqu'il a toujours cru aux mêmes choses. Kant, il a cru à quelque chose en plus, quelque chose qui était conduit, précédé par ces deux critiques, la troisième, celle du jugement. Mais Heidegger, il n'a rien compris de plus. Ce qui peut étonner, c'est que, bon, sachant que les camps d'extermination ont existé, sachant ce qu'était vraiment le nazisme, il est continué à pouvoir tolérer dans sa propre pensée, comme racine de sa propre pensée, ce qui fait la racine du nazisme.
C'est même incompréhensible, en fait.
Mais si, c'est très compréhensible,
enfin,
malheureusement.
C'est compréhensible théoriquement, mais c'est incompréhensible quand on a un homme en face de soi qui a l'air plutôt sympathique, par ailleurs, je crois. Et d'ailleurs, ça montre aussi que quand vous dites, voilà, j'aime ne pas comprendre, c'est très intéressant parce que dans ce qu'on ne comprend pas, il y a des choses qui sont excitantes et qui sont belles, et des choses qui sont terrifiantes.
Mais moi, j'ai l'impression que je comprends comment Heidegger a fonctionné. Peut-être que je me trompe, bien sûr. Mais j'ai l'impression que je comprends ce à quoi il a cru jusqu'au bout.
D'accord.
Voilà. Et c'est cette croyance jusqu'au bout. Ce que je peux ne pas comprendre, ce que peut-être je ne comprends pas, c'est cette façon de dénier le réel. C'est-à-dire de dénier le réel que sont les camps de concentration, l'extermination, la Shoah et tout ce que vous voulez.
C'est une définition de l'idéologie. L'enfermement de la logique d'une idée. C'est d'ailleurs ainsi qu'Anna Arendt, que vous évoquiez, a défini l'idéologie. L'enfermement de la logique d'une idée, c'est-à-dire un déni du réel, un oubli du réel. Au fond.
Oui, mais c'est aussi ce qui me fait prendre de la distance à l'égard de Platon. Vous voyez ?
Oui.
Parce que je sens... dans Platon, une espèce de haine de quelque chose de l'ordre du réel, et du réel de la démocratie grecque, etc.
Ce risque-là, le même risque.
Oui, il porte le même type de risque. C'est-à-dire la notion même d'idée comme centre et comme alpha et oméga, comporte ce risque.
Oui. Alors quand je vous écoute, que je vous écoute parler comme ça, et que je vous écoute avoir foi en les mots, finalement, j'aime beaucoup cette idée de laisser les mots porter du sens, de laisser les mots parler, en fait, de ne pas vouloir la maîtrise des mots. Mais du coup, je me dis parfois, ça doit vous gêner quand vous faites une conférence, et que cette conférence est écrite, et que vous ne faites que lire, ou alors quand vous faites votre discours de réception à l'Académie française. J'imagine que là, il était écrit.
Oui.
Du coup, dans ce cas-là, pour revenir à la distinction qui nous intéressait au début, vous ne parlez pas, vous communiquez.
Non. Dans ce cas-là, je fais du théâtre.
Voilà.
Non, mais c'est très différent. Je communique pas. Je suis une actrice.
Oui, oui.
Donc ça, c'est autre chose. J'ai rédigé un texte qui est un texte dans lequel j'ai pu bien me laisser porter par les mots, si j'en suis vraiment capable.
Ouais.
Oui. Et puis ensuite, je le dis. Et d'ailleurs, c'est un métier que j'aurais bien aimé faire, actrice. C'est un métier que j'ai failli faire.
Oui. Et alors, vous avez aussi écrit un joli livre sur la nostalgie, sous-titré « Quand donc est-on chez soi ?». C'est une question que j'ai envie de vous poser. Si on est chez soi, dans son existence humaine, ce moment où on sort de soi pour passer, pour aller voir ailleurs, curieux, comme ça, être un passager, un passant, tout ce qu'on a évoqué dans le sillage et d'Iggy Pop et de votre œuvre. Du coup, quand est-ce qu'on est nostalgique finalement ? Quand est-ce qu'on est chez soi ?
On est chez soi quand on est accueilli, c'est ça ma définition.
Ouais.
Et c'est pour ça que je suis chez moi en Corse, alors que je suis pas corse du tout. Et que Dieu sait que c'est difficile d'être adopté. Ben non, pas du tout. C'est pas du tout difficile. Je veux dire que l'hospitalité, on est chez soi véritablement quand il y a de l'hospitalité. Moi, c'est la seule manière dont je me sente chez moi.
On est peut-être chez soi aussi quand on est aimé, finalement. Être aimé par quelqu'un, c'est être accueilli par quelqu'un de différent.
Oui. Oui, oui. Ben, c'est être hospité, déjà. Ouais. Pour vous aimer, il faut bien qu'on vous accueille et qu'il y ait de la réciprocité. Moi, j'ai jamais vu de l'amour sans réciprocité.
Alors, justement, dans votre autobiographie philosophique, j'ai été très ému par les pages sur l'amour. L'amour avec votre mari, pour votre mari. Un amour libre, un amour sans possessivité, sans exclusive. Et il y a un passage que j'ai trouvé extrêmement touchant, que je vais vous lire. Donc on comprend que vous êtes un couple de ces années-là, libre, que vous n'êtes pas dans cette espèce de d'enfermement, dans le mono. On comprend aussi, en vous lisant, que vous avez été très marqué par la façon dont vos parents se sont aimés, avec beaucoup d'amour, mais beaucoup de possessivité, beaucoup de crises, beaucoup d'engueulades. Et vous avez une scène traumatique où votre père, après s'être engueulé avec votre mère, alors qu'elle sort de la salle de bain, lui dit « Mais voilà ce qui est devenu l'amour de ma vie.
Oui. »
Et là, vous vous dites « Moi, je veux jamais que ça m'arrive. » Et on a l'impression que vous êtes jeté dans l'aventure d'un autre type d'amour, par exemplarité négative, pour ne jamais ressembler à ça. Et alors justement, la scène, j'avoue qu'elle m'a posé beaucoup de questions, la scène suivante. Votre mari est parti à l'étranger, il est parti en Afrique, je crois. Il revient plus tôt que prévu. Vous avez passé la nuit chez un de vos amants. Vous rentrez le petit matin dans la rue et vous vous rencontrez dans la rue au pied de chez vous. Et alors, c'est très émouvant parce que vous êtes très heureuse de le retrouver, parce que très amoureuse de votre mari, et évidemment très gênée et très désemparée. Et voilà ce qu'il fait. Il m'a serré dans ses bras et m'a dit « J'aime quand tu as le corps gai ». Il me l'a dit sans reste, sans qu'il soit question d'équilibre, de prêter pour un rendu, d'une quelconque réciproque, compensation ou équité. C'était parfait, poétique et parfait. Ce sont des choses qui lient pour toujours. Il est devenu le gardien de notre amour.
J'ai rien à dire de plus.
Ben, justement, moi j'ai une question. D'abord, pourquoi ce serait lui et pas vous, le gardien de l'amour dans ce cas-là?
Parce que c'est lui qui a eu cette invention.
Et c'est lui aussi qui a eu cette... peut-être cette...
cette invention de phrase, magnifique.
Ouais. Parce que dans tout votre livre, il y a cette idée, au fond, vous retracez votre vie à travers certaines phrases. Alors
oui.
Il y a celle-là,
oui.
Il y a d'autres phrases. Et finalement, c'est comme si vous disiez que votre destinée, votre chemin est tissé de mots.
Oui.
Et de mots, justement, qui résonnent de façon polysémique. Et bien, dans celui-là, j'aime quand tu as le corps gai, il y a aussi plusieurs sens, finalement. Il y a aussi plusieurs idées en même temps. Il y a cette idée d'aimer la liberté de l'autre, finalement de devenir irrésistible aux yeux de l'autre parce qu'on aime sa liberté. Toujours cette idée d'une non-possessivité, c'est étonnant quand même tant de cohérence. Il y a toujours cette idée au fond de passer, de ne pas appartenir quoi.
Oui, enfin en tout cas de ne pas appartenir à de l'un. C'est le mono qui me fait peur.
Monothéisme,
monogamie, oui, monoïdéisme. Bon. Voilà. Mais
si on dit que tout est passage, on retombe dans le mono.
Bah non, vous savez, c'est pas parce qu'on dit qu'on ne sait rien qu'on est. Il n'y a pas de contradiction sceptique à mes yeux. Personne ne prétend à justement à partir du moment où on peut dire que tout est passage, personne ne prétend ni à la cohérence ni à l'incohérence. Et puis, je ne dis pas que tout est passage.
Oui, ça, c'est
pas
vrai,
du tout ce que je dis.
Oui, c'est vrai. Hein? C'est moi qui n'arrête pas de dire ça.
Oui.
Mais du coup, vous définiriez comment l'amour?
Déjà, je pense que c'est un sentiment étrange partagé. Je ne sais pas vraiment le définir. Parce que je pense qu'il y en a plusieurs sortes. Je pense qu'il y en a beaucoup de sortes. Je pense que partager, ça doit en faire partie, vraiment. C'est alors maintenant un sentiment qui aide à vivre. Ça, peut-être, c'est ce qu'il faut ajouter pour le distinguer de la haine, parce que la haine, ça complique vraiment atrocement la vie.
Ou alors aussi, peut-être, un sentiment qui ouvre quelque chose, qui ouvre le possible, qui ouvre des possibles nouveaux.
Oui, Oui, oui.
Parce que c'est vrai que dans votre très belle autobiographie philosophique, il y a beaucoup de rencontres. Elles ne sont pas toutes amoureuses, hein, mais on a l'impression à chaque fois que les rencontres ouvrent des nouveaux chemins qu'on n'aurait pas envisagés sans ces rencontres-là. Mmh. René Char, Heidegger, Lacan et d'autres. Vous définiriez comment, au fond, une vraie rencontre ?
En tout cas, vous avez raison d'insister sur le fait que c'est il y a quelque chose d'imprévu dans le terme même de rencontre. Et là, il y a le sens, enfin, le mot grec kairos me vient immédiatement à l'esprit. Donc kairos, c'est alors la représentation, c'est un beau jeune homme avec des ailes aux pieds, mais complètement chauve par derrière et avec juste une mèche qu'il faut attraper. Et donc, il faut saisir l'occasion par les cheveux. Bon, donc c'est une rupture dans la linéarité du temps. Bon, c'est ça une rencontre. Bon, il y a du passé, il y a du présent, il y a du futur. C'est une grande ligne. Le temps se spatialise. Bon, et tout d'un coup, paf, il y a une rupture dans cette spatialisation linéaire. Bon.
Et cette rupture ?
Ben, cette rupture, c'est la rencontre.
Et elle ouvre un avenir nouveau, peut-être aussi.
Oui, elle ouvre tout court. Donc voilà.
Si je vous dis, vous êtes l'enfant de quoi ?
Je suis l'enfant de mes parents, c'est-à-dire de ma mère que je trouvais hongroise, enfin belle, peintre, libre et terriblement étriquée aussi, dans le genre petite bourgeoise, mais tout d'un coup pouvant faire éclater ses petitesses merveilleusement. Et les faire merveilleusement éclater, voilà. Et mon père, il aurait été peintre comme elle, il aurait bien aimé faire ça. Et en même temps, il était avocat et il grattait du papier et ça l'ennuyait prodigieusement. Mais en même temps, il aimait bien ce qu'il faisait, mais il le haïssait simultanément. Il m'a interdit de faire du droit. Bon, je suis l'enfant de mes parents qui étaient justement, des gens pour qui j'avais de l'amour et une certaine admiration et en même temps à qui j'avais pas du tout envie de ressembler.
Oui, ça a été à la fois une dette, un moteur, et puis on voit beaucoup d'amour aussi dans cette très belle autobiographie philosophique. Le bonheur, sa dent douce à la mort. Barbara Cassin, merci.
Merci.
Merci de nous avoir rendu visite dans cette caverne que vous connaissez bien, sous le soleil de Platon. Et pour vous remercier, je voudrais essayer de résumer pour nos auditeurs votre philosophie de la vie, hein, pas simplement celle que vous avez écrite de façon théorique, mais celle que vous incarnez. J'aurais envie de dire une philosophie à la fois sage et sensuelle, performative au sens où les mots produisent des conséquences, une philosophie faite de mots, de phrases, je dirais aussi de fidélité multiple, de loyauté multiple, toujours pareil, hein, pas de un, pas de mono, pas de monothéisme, pas de monogamie, une ouverture aux multiples. Au blabla aussi, une philosophie de passante, de passagère, mais je vais pas trop insister parce que vous m'avez reproché d'avoir voulu voir du Iggy Pop partout. Barbara Cassin, merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Alicia Vulot avec, à la technique, Benjamin Orgeret. À la programmation musicale, Thierry Dupin. Aux illustrations sonores, Romain Couturier. Elle a été préparée par Estelle Gap et Aurore Juvenel. Quant à moi, j'ai le plaisir de vous retrouver tous les matins à 10h sur France Inter, sous le soleil de Platon.